Géographie, il est 10h en temps universel, 18h à Pékin, le journal.
Pierre Boudias.
Les pays arabes veulent parler d'une seule voix sur Gaza. Les monarchies du Golfe, la Jordanie et l'Égypte réunies en sommet à Riyad aujourd'hui. Objectif, trouver une réponse commune face aux propositions polémiques de Donald Trump sur l'avenir de l'enclave. Les conservateurs américains organisent leur grande messe à Washington. Grande convention de la CPAC jusqu'à samedi dans la capitale. L'occasion pour le vice-président d'évoquer une nouvelle fois une possible rupture avec l'Europe. Vaste opération de rapatriement de ressortissants chinois au Myanmar. Des travailleurs exploités au sein de centres d'escroquerie en ligne. Leur retour au pays coordonnées par Pékin, la Thaïlande et la Birmanie. Et puis il y a 60 ans, Malcolm X était assassiné, figure de la lutte pour les droits civiques. Son héritage reste controversé par son refus de la non-violence. Il reste cependant une référence chez de nombreux militants. Vous l'entendrez. Benjamin Netanyahou accuse le Hamas d'une violation cruelle de la trêve. Colère en Israël ce matin au lendemain du retour des dépouilles de 4 otages kidnappés le 7 octobre. Parmi elles, celle de la famille Bibas, une mère et ses 2 enfants. Mais selon Israël, l'autopsie a révélé que le cadavre présenté comme celui de la jeune femme ne correspondait pas. Le premier ministre dénonce un cynisme inimaginable et promet de tout faire pour amener le corps de Shiri Bibas. Une colère qui intervient la veille d'un nouvel échange otages-prisonniers censé conclure la dernière étape de la première phase de l'accord de trêve, mais aussi à quelques heures d'une réunion à Riyad qui se penche sur l'avenir de l'enclave palestinienne. 6 monarchies du Golfe, la Jordanie et l'Égypte doivent tenter d'adopter une position commune face aux velléités de Donald Trump de faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient. Et selon Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen de Genève, ces pays ont bien conscience que seul un front commun leur permettra de peser face au président américain.
Aucun État arabe seul n'est en mesure de faire une contre-proposition au plan de Donald Trump à Gaza. Évidemment, les Jordaniens et surtout les Égyptiens ont demandé de l'aide et ils sont arrivés à une conclusion selon laquelle seul un plan soutenu par tous les États arabes est en mesure de trouver un intérêt auprès du président Donald Trump. Il y a des divergences surtout sur la question du rôle. Est-ce qu'il faut donner un rôle à des États arabes ou à une force internationale pour la gouvernance de Gaza, c'est-à-dire pour s'assurer du cessez-le-feu. Les divergences aussi, certains États sont pour que le Hamas disparaisse complètement sur le plan politique, d'autres demandent à ce qu'il y ait un désarmement du Hamas et certains États disent que le Hamas a un rôle à jouer aussi dans ce qu'on appelle le jour d'après. Évidemment, l'Égypte n'est pas du tout prête, elle ne veut surtout pas revoir un autre scénario, c'est-à-dire d'assurer une gouvernance civile comme ça a été proposé par certains États.
Hasni Abidi au micro d'Eike Schmidt. Autre dossier chamboulé par l'arrivée au pouvoir du président américain, celui de la guerre en Ukraine. Après la rencontre russo-américaine de la semaine dernière, la Chine estime qu'une fenêtre de paix s'ouvre en Europe de l'Est. Qualifié de dictateur par Donald Trump, le président Zelensky a appelé hier à une relation solide avec Washington, main tendue qui ne semble pas avoir été entendue par Elon Musk, le meilleur allié du président américain, qui dans un tweet estime que le président ukrainien est méprisé par son propre peuple. Le patron de Tesla présent au CPAC, la grande messe des conservateurs américains. Elle se déroule à Washington jusqu'à samedi. L'occasion pour le vice-président américain de faire une nouvelle fois la leçon à l'Europe sur la liberté d'expression. J.D. Vance qui est allé jusqu'à affirmer que les États-Unis et le vieux continent pourraient ne plus partager les valeurs communes sur lesquelles repose leur alliance depuis la capitale américaine, David Thompson.
L'amitié entre l'Europe et les États-Unis est basée sur des valeurs communes, dit J.D. Vance, mais le vice-président américain tempère immédiatement. Nous n'avons plus de valeurs communes. Quand vous jetez en prison des gens pour un tweet ou quand vous annulez des élections parce que vous n'êtes pas satisfait des résultats. J.D. Vance fait allusion aux arrestations d'internautes en Allemagne pour incitation à la haine et à l'annulation de la présidentielle roumaine en raison de soupçons d'ingérence russe. Dans la salle, Elisabeth applaudit. Cette fidèle trumpiste estime que l'Europe doit s'aligner sur la conception trumpiste de la liberté d'expression si elle veut préserver son alliance avec les États-Unis.
On a vu ces vidéos de gens arrêtés en Allemagne et en Angleterre et il dit simplement « nous devons avoir des valeurs partagées avec les États-Unis, comme dire la vérité et la réalité. » Et ce qu'il dit à l'Union européenne, c'est « rejoignez-nous ».
Et certains trumpistes, comme Derek de Pennsylvanie, vont maintenant jusqu'à se sentir plus proches des Russes que des Européens.
J'aime les Russes. Ils sont forts comme les Américains.
Mais s'il est est une alliance qui se porte bien, c'est bien celle des Trumpistes avec les droites nationalistes européennes, dont les représentants ont presque tous été invités à la CPAC, grande convention annuelle de la droite américaine. David Thompson, Washington RFI.
Les États-Unis qui imposent des sanctions financières à deux hauts responsables rwandais, elles visent le ministre de la coopération régionale et le porte-parole civil de l'AFC M23 pour leur application supposée dans l'offensive que mène la milice dans l'est de la République démocratique du Congo. Joint par RFI, le ministre des Affaires étrangères de Kigali dénonce une décision injuste. Olivier Dounguiré estime qu'elle ne favorise en rien la paix et rejette toute menace occidentale. RFI, il est 10h05 à Ouagadougou. Après le Mali, le groupe pétrolier Total va se retirer du Burkina Faso. Après 70 ans de présence, le grand leader des hydrocarbures cède ses stations-service à Corist Investment Group, une société burkinabé qui se diversifie dans l'énergie. Les précisions sont signées Claire Fage.
La direction de Total l'a confirmé à l'occasion d'une rencontre avec le ministre burkinabé de l'Industrie et du Commerce, Serge Poda. Le géant français du pétrole cède ses activités de distribution au Burkina Faso, 170 stations-service à Coris Investment Group. Une compagnie burkinabé d'envergure, s'est félicité le responsable du développement commercial de Total en Afrique de l'Ouest, Padaram Baké, qui a dit espérer que l'opération offrirait l'opportunité d'assurer la continuité des opérations pour les clients industriels et privés. Coris Investment Group incarne le nouvel élan de souveraineté économique en Afrique. Établi dans la banque et l'assurance, la société burkinabé a repris la filiale de Société Générale au Tchad. Elle se diversifie dans l'hôtellerie, l'immobilier, les mines et donc désormais l'énergie. Pour Total, présent depuis 1954 au Burkina Faso, une page se tourne. L'insécurité et les tensions diplomatiques entre Paris et les pays du Sahel ont accéléré une tendance de fond. Le retrait de Total de l'aval pétrolier en Afrique francophone. Le groupe français avait déjà quitté la Centrafrique, le Niger, le Tchad et il y a quelques semaines le Mali.
Vaste opération de rapatriement en Asie du Sud-Est. Plus de 1000 ressortissants chinois qui travaillaient dans des centres d'escroquerie en ligne dans l'est du Myanmar ont commencé à rentrer en Chine. Cet effort de rapatriement est le résultat d'opérations coordonnées par la Thaïlande, la Chine et le Myanmar pour démanteler ces réseaux frauduleux. Cléa Broderst.
Ces centres, situés notamment à Miawadi, étaient au cœur de fraudes internationales par le biais de stratagèmes impliquant de fausses relations amoureuses, des investissements fictifs et des jeux d'argent illégaux. Les centres d'escroquerie sont considérés comme des plaques tournantes de la traite des êtres humains. Attirés sous de faux prétextes, les travailleurs se retrouvaient piégés dans des conditions extrêmes d'exploitation. Ils travaillaient de longues heures sous la menace de violences physiques, voire de prostitution forcée ou de prélèvement d'organes s'ils ne rapportaient pas assez d'argent. Le rapatriement s'effectue en plusieurs étapes, passage par la frontière thaïlandaise, traitement sur place puis retour en Chine par avion. Bangkok estime que jusqu'à 10 000 personnes pourraient être concernées. Cette opération illustre l'importance de la coopération entre la Chine, la Thaïlande et la Birmanie pour lutter contre ces réseaux criminels. En coupant les ressources des centres d'escroquerie et en mettant en place des cellules de coordination, les autorités espèrent restaurer la sécurité et la stabilité dans la région. C'est une lutte qui s'inscrit dans un combat plus large contre la traite des êtres humains et le crime organisé en Asie du Sud-Est. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Et puis, il y a 60 ans, Malcolm X était assassiné à Washington. La figure du mouvement des droits civiques était également un homme controversé de par son opposition à l'approche de Martin Luther King. Mais des décennies après son décès, c'est toujours une référence chez certains militants. Edouard Maille à Atlanta.
Kamau Franklin milite pour plus d'égalité et promouvoir l'engagement politique des personnes noires. Il a lu et étudié tous les discours et livres de Malcolm X et le cite régulièrement lors de réunions.
Je ne suis pas sûr de connaître un seul militant noir qui a commencé à apprendre l'histoire et les luttes politiques pour les personnes noires et qui n'a pas lu Malcolm.
Le quinquagénaire s'inspire aussi de la méthode de Malcolm X dans son propre travail.
Il faut aller loin dans les communautés noires et travailler avec les classes pauvres et populaires noires pour encourager leur politisation et leur éveil pour qu'elles se battent pour nos droits.
En s'opposant à l'approche non violente, Malcolm X s'était distancié d'autres figures des droits civiques, comme Martin Luther King, mais pour Kamau Franklin, il a apporté une critique essentielle du mouvement.
Le mouvement implorait l'homme blanc, l'oppresseur, comme disait Malcolm, pour des droits civiques. Et il a montré que nos façons de se battre n'allaient rien nous apporter, car on dépendait du gouvernement américain qui était justement l'oppresseur.
L'autobiographie de Malcolm X, coécrite avec le journaliste Alex Haley, est considérée par le magazine Time comme l'un des 100 meilleurs livres de non-fiction de tous les temps. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Presque 10h10, Antoine Universel sur RFI. Djaran Diaye pour 8 milliards de voisins dans un instant.